L'évangile de Luc au chapitre 9. Avant ça, je voudrais prier un instant. Seigneur, merci pour ta grâce, on l'a chanté. Merci pour ta vie, on l'a célébrée. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu d'éternité. Et Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Je te prie que quand on ouvre ta parole, ce soit ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une semence de vie, une parole qui change les vies, qui change les cœurs, qui abreuve les âmes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux afficher ? Ah ben c'est fait, merci. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea. Que disent les foules à mon sujet ? Qui suis-je d'après elles ? Ils lui répondirent, pour les uns, tu dois être Jean-Baptiste. Pour d'autres, tu dois être le grand prophète Élie. Pour d'autres encore, bon, l'un des prophètes d'autrefois qui a dû ressusciter. Mais et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis ? Jésus semble préoccupé par ce que les gens disent de lui. Il commence par parler à ses disciples et puis il leur dit, mais les foules, qu'est-ce qu'elles disent de moi ? Qui disent-elles que je suis ? Et puis après, il poursuit la question et dit, mais et vous là, mes copains de tous les jours ? Vous dites qui ? Vous dites quoi de moi ? Vous dites que je suis qui ? Jésus semble vraiment préoccupé par ce que les gens disent de lui. En fait, plus précisément, Jésus ne s'occupe pas ou n'est pas préoccupé de sa propre réputation. C'est pas ça qui le préoccupe, c'est pas sa réputation. Je crois que Jésus est quelqu'un d'assez bien dans sa peau, assez bien dans sa tête, assez bien dans son corps et dans son cœur pour ne pas se préoccuper de l'opinion des autres. Vous savez, ceux qui ont envie de savoir tout le temps ce qu'on pense d'eux sont plutôt des gens pas toujours assurés en eux-mêmes. Ce n'est pas trop l'image que je donne Jésus. Mais alors pourquoi Jésus dit, mais qui dit-on que je suis ? Qu'est-ce que vous pensez que je suis ? En fait, ce qui préoccupe Jésus, c'est de savoir ce que les gens croient qu'il est. Qui suis-je d'après les foules qui me suivent ? Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Alors il y a ici des gens qui viennent pour peut-être la première fois, il y en a d'autres qui viennent depuis des années, mais à chacun, cette question elle est posée ce matin, ou elle est renouvelée cette question. Qui est Jésus ? Merci. Cette question, elle n'a pas seulement défrayé la chronique lorsque Jésus marchait sur la terre d'Israël, comme on vient de le voir, mais elle a continué à interroger les foules au temps apostolique, pendant que les apôtres étaient sur terre et vivaient leur ministère. D'ailleurs, ils écrivent à ce sujet, sur qui est Jésus. Ça a continué dans les temps post-apostoliques, c'est-à-dire juste après que les apôtres soient morts. On a continué, ça, il y a eu des débats, il y a eu des disputes, il y a eu toutes sortes de questionnements dans les premiers siècles. Et c'est pour ça que les premiers conciles, ces grands rassemblements de responsables spirituels chrétiens, se sont réunis et ont dû verbaliser clairement des confessions de foi très claires sur qui est Jésus pour clarifier les choses. Mais régulièrement, pendant l'histoire de l'humanité, eh bien, cette question est revenue à l'ordre du jour. Ça a été le cas, j'ai pris deux, trois exemples, ça a été le cas par exemple lors de l'apparition de l'islam en Arabie. Qui est Jésus ? L'islam a conclu, c'est un prophète. Beaucoup plus tard aussi, j'ai pris un autre exemple, au XIXe siècle, dans le monde chrétien lui-même, avec l'avènement de la théologie libérale, c'est-à-dire les théologiens libéraux, vous savez, c'est ces personnes qui relativisent un petit peu la véracité des Écritures, qui discutent, qui rationalisent, qui cherchent d'autres solutions que la solution de la foi. Et aussi, ont remis en question qui est Jésus. Leur conclusion souvent, c'est que c'est un homme inspiré. Parce que Jésus est un homme inspiré. Bien sûr, après, toutes les sectes aussi ont rajouté leur sauce à cette tambouille-là de cette confusion de qui est Jésus. Les témoins de Jéhovah, les mormons, si vous connaissez un petit peu, vous savez un petit peu les doctrines qu'ils ont vis-à-vis de Jésus. Qui est Jésus ? C'est quand même intéressant que ce soit la question centrale, cruciale, qui s'est posée depuis deux millénaires finalement. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que c'est la question sur laquelle le diable a le plus cherché à détruire l'Église, j'allais dire. C'est le diable a mis le paquet depuis 2000 ans et régulièrement pour essayer de détruire, de jeter la confusion sur qui est Jésus, sur la nature de Jésus. Alors pourquoi cette question, elle est si centrale ? Après tout, chacun ses opinions. Et puis quand quelqu'un vous dit, moi j'ai eu une révélation, j'ai compris que Jésus est ça, ça contredit un peu ce qui a été dit avant, mais c'est pas grave, l'important c'est d'avoir des convictions. Pourquoi cette question, elle est si importante ? Jésus va nous donner la réponse dans l'évangile de Jean. C'est pourquoi je vous ai dit que vous allez mourir dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est une question, c'est une phrase cinglante là. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et qu'est-ce que ça veut dire mourir dans ses péchés ? Parce qu'on meurt tous dans nos péchés, on est tous des pécheurs. Non, quand Jésus parle de mourir dans nos péchés, ça veut dire mourir avec la peine du péché sur nos vies, avec le fardeau du péché, du mal, de notre haine, de notre non-pardon, de notre, je sais pas, tout ce qui peut toucher nos vies au niveau du péché. Jésus va dire, si vous ne croyez pas ce que je suis, ou qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Donc on comprend que Jésus était préoccupé de ça, et qu'à plusieurs reprises, il a dit, mais attends, est-ce qu'ils ont bien compris qui je suis ? Qu'est-ce qu'elles disent les foules ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Parce que vous, c'est encore plus important, vous êtes mes disciples. Donc si vous êtes confus sur qui je suis, ça part en vrille dès le début. Et les apôtres aussi ont continué. Garde le bon dépôt. Et l'épître de Jude qui est là pour rappeler la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Se tromper sur la nature de Jésus, c'est selon lui une question de vie ou de mort. Waouh ! Si l'on se trompe sur qui il est, ça nous amène à mourir dans nos péchés. En revanche, savoir et croire dans son cœur qui il est, c'est le salut. C'est la délivrance du péché, c'est une vie nouvelle, c'est un changement de destinée éternelle. C'est extraordinaire. Alors pour répondre à cette question, il faudrait des heures d'études bibliques, et on ne les a pas dans le cadre d'un message du dimanche matin. Donc j'ai choisi de répondre à cette question « Qui est Jésus ?» par un biais précis. On pourrait prendre la question par toutes sortes de côtés, j'allais dire. J'ai choisi un côté particulier ce matin qui traite en fait de... Ah, ça marche, merci. de quand est-ce que Jésus est apparu dans l'histoire. Alors, quand est-ce que Jésus est apparu? Si je vous pose la question, vous dites quoi? Quand est-ce qu'il est venu, Jésus? Vous n'osez pas vous mouiller. Hein, j'entends qu'ils disent qu'ils murmurent il y a 2000 ans. C'est peut-être ça. Ben oui, c'est la réponse naturelle. Jésus est né il y a 2000 ans. En Galilée. Non, en Judée, pardon. Posé comme ça, donc la réponse est facile à donner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de gens aujourd'hui pour nier la naissance d'un homme sur la terre d'Israël qui s'appelait Jésus. Même les plus rationalistes ou ceux qui ont le moins de bonne foi, j'allais dire, acceptent de dire oui, effectivement, il y a un homme qui, il y a 2000 ans environ, est né, qui s'appelait Jésus. Il est né dans une ville qui s'appelait Bethléem. Son nom hébreu, c'était Yeshua. Et voilà, cet homme est né. Voilà. Et là, il n'y a pas grand monde pour remettre ça en question. Donc Jésus était bien un homme. C'est déjà un début de la réponse. Pourtant, lorsqu'on lit la Bible, on peut douter que l'apparition de cet être unique date en fait du 1er siècle. Donc certes, l'homme Jésus est bien né à Bethléem, dans une petite ville de Judée, mais il y a un certain nombre de paroles bibliques qui nous interrogent. On va les voir, on va en voir un certain nombre. Notamment, Jésus, une fois, va parler de lui-même. Dans l'évangile de Jean, ça nous est rapporté. Jésus parle de lui-même et dit une phrase comme celle-là. « Avant qu'Abraham vienne à l'existence, je suis. » Avant qu'Abraham vienne à l'existence, je suis. Or, si vous regardez la chronologie, l'histoire, Abraham a vécu 2000 ans avant Jésus. Comment Jésus peut-il dire qu'il a précédé Abraham? Attends, Jésus, mais tu es un petit bébé là, nous on t'a connu, tu es voilà, né dans une crèche à Bethléem, tu as été élevé à Nazareth, tu as grandi, on connaît tes parents, c'est ce que les gens disaient, tu es le fils du charpentier, etc. Qu'est-ce que tu dis? Avant qu'Abraham fût, je suis. L'apôtre Jean aussi, toujours, au début de son évangile, va dire des phrases surprenantes sur Jésus. Il écrit par exemple, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Alors, dans ce texte, même si Jean va appeler la parole, en grec, dans lequel a été écrit le Nouveau Testament, c'est le Logos, on sent bien qu'il parle de Jésus dans ce texte. En fait, un peu plus loin, au verset 14, il écrit... Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Donc Jean va dire quelque chose de fort, il va dire Jésus, que moi j'ai envie d'appeler la parole, parce que oui, comment l'appeler avant? Comment l'appeler avant que Jean appelle la parole? On ne l'appelait pas Jésus. Jésus, son nom choisi par Joseph et Marie, c'était bien le nom du petit bébé né il y a 2000 ans. Alors comment il s'appelait avant? Donc Jean va l'appeler la parole, le Logos. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur ce Logos, cette parole? Au commencement était la parole. Dans la Bible, quand ce terme retentit au commencement, on sait en fait que c'est avant la création, au moment de la création. Donc au moment de la création de l'univers entier, au moment de ce Big Bang énorme dont on a déjà parlé, Jésus était là. Pas sous ce nom-là, mais Jésus était là. Waouh ! La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. En fait, quand Jésus est né sous forme d'un bébé, c'était vraiment une incarnation d'un être préexistant. Je redis ces mots. C'était l'incarnation d'un être préexistant. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean, si je déchiffre. Donc Jean fait remonter l'existence de Jésus au commencement. c'est-à-dire avant la création du monde, lorsque ce logos était avec Dieu, c'est-à-dire dans l'éternité. Jean-Baptiste aussi, vous savez, Jean-Baptiste, c'était un contemporain de Jésus, il était son aîné, c'était son cousin. Il baptisait dans le Jourdain, dans le désert de Judée, en contrebas des collines là, de Jérusalem, quelques kilomètres. Et il baptisait les Juifs, il appelait à la repentance les Juifs. Donc il avait un ministère où, j'allais dire, ça bardait avec lui. Hein. Il mettait l'emphase sur les fautes, sur l'imperfection des gens, et leur disait, maintenant il faut que vous changiez de vie, et il faut que vous plongez dans l'eau pour changer de vie, comme signe d'un changement de vie. Donc Jean Baptiste était un prophète. Et Jean Baptiste va parler de Jésus, et il va dire, quand il le présente à ses disciples, Jean Baptiste avait des disciples, et quand il présente Jésus à ses disciples, il va dire, c'est lui là, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Or Jean-Baptiste a été conçu et est né avant Jésus. Comment Jean-Baptiste peut-il dire « il était avant moi » ? Il avait cette notion que dans cet être-là, cet homme, parce qu'à l'époque, replongeons-nous dans, je vous ai transporté un peu là dans le désert de Judée, avec ce Jourdain, tout ça, c'est un homme. Jean-Baptiste présente à ses disciples un homme et lui dit « cet homme-là, c'est celui dont je vous ai parlé, qu'il allait venir. Il va me suivre, c'est-à-dire venir après moi. Mais en fait, il m'a précédé. » Ça a tellement intrigué les disciples de Jean-Baptiste qu'ils ont quitté Jean-Baptiste et ils ont suivi Jésus pour dire, bah, si celui-là, il était avant, il doit être plus grand, alors on va y aller. Tous les apôtres, en fait, dans la suite, tous les compagnons de Jésus, donc, ont rendu ce témoignage d'une préexistence de Jésus. Pour éviter d'allonger le message, je vais citer juste l'apôtre Paul, quand il écrit à l'assemblée qui se trouve dans la ville qui s'appelle Philippe, il déclare, donc dans Philippiens 2, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Donc Jésus s'est dépouillé, nous dit l'apôtre, de quelque chose qu'il avait avant pour endosser la nature humaine. Paul et tous les apôtres, je vous dis, c'est une phrase parmi tant d'autres, mais Paul va décrire comment le Jésus d'avant, qui ne s'appelait pas Jésus, qui préexistait, s'est dépouillé pour naître comme un simple homme, pour prendre la forme d'un serviteur, pour naître sur la terre. Alors jusque-là, on a vu des témoignages concernant Jésus, soit de contemporains, les apôtres, etc., soit de ses premiers disciples, les premiers disciples du premier siècle. Mais en fait, qu'est-ce qu'on dit les gens qui ont vécu avant Jésus ? En Israël, pendant des centaines, des milliers d'années, il y a eu des prophètes qui ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce sujet ? J'ai choisi deux points qui nous parlent de Jésus avant Jésus. Dans les Écritures hébraïques, il y a un personnage qu'on rencontre de loin en loin, depuis Abraham, mais on le rencontre tout au long de l'ancienne alliance, la première alliance, tout au long des Écritures hébraïques, il y a un personnage un petit peu mystérieux que la Bible appelle l'ange de l'Éternel. Par moments, elle l'appelle aussi l'ange de l'alliance ou bien l'ange de sa face. C'est un personnage, je disais, un petit peu mystérieux parce que dans certains passages où il est appelé l'ange de l'Éternel, dans la même phrase ou la phrase qui suit, il est aussi appelé l'Éternel. Alors il est l'ange de l'Éternel ou il est l'Éternel ? L'Éternel, c'est le nom de Dieu, hein, c'est le nom qu'on ne prononce pas, qui est le nom de Dieu. Donc il est l'ange éternel, il est l'éternel. Quand l'ange de l'éternel parle, on se rend compte après que c'est Dieu qui parlait. Quand l'ange de l'éternel agit, on se rend compte que c'est l'éternel qui agit. Il y a vraiment cette, comme une sorte de confusion, mais volontaire, entretenue. En fait, on se rend compte que quand la Bible nous parle de l'ange de l'éternel, elle ne nous parle pas d'un ange. En tout cas, pas un ange comme les autres, puisqu'il est parfois appelé Dieu. Et puis, lorsqu'il apparaît, cet ange de l'éternel, à des êtres humains, il prend une forme humaine. Alors, c'est un ange, c'est Dieu, c'est un homme. Les Écritures hébraïques entretiennent le suspense, j'allais dire. Encore plus que ça, je parle des prophètes qui ont prophétisé avant la naissance de Jésus. Et je voudrais vous parler du prophète Ésaïe ou Isaïe. Donc, souvenez que ce prophète a vécu 600 à 700 ans avant Jésus. Donc, bien avant la naissance du bébé Jésus. Et il va dire au chapitre 7, « La jeune fille vierge concevra et mettra au monde un fils. Elle lui donnera le nom Dieu avec nous. » Au chapitre 9, Ésaïe va décrire aussi l'enfant. Il va dire « Cet enfant, on va l'appeler conseiller, admirable, Dieu fort, Père d'éternité, Prince de la paix. » Vous remarquez que ce petit bébé-là, Jésus, qui est annoncé bien avant sa venue, il est appelé Père d'éternité. Vous imaginez une jeune fille, Marie était jeune, 16, 17 ans probablement à la naissance de Jésus, avec son petit bout de chou dans les bras. Et le prophète, 700 ans, a dit ce petit bout de chou, son nom c'est Père d'éternité. Waouh, c'est comme si on voyait une perspective, tout petit bébé, et puis derrière, une perspective incroyable. Dans cet enfant, ce petit bout d'homme juif, né dans une crèche, en fait, on a ontologiquement une origine éternelle et divine. Je terminerai cette liste aussi par une prophétie incroyable, celle du prophète Michée. C'est un prophète qui a vécu aussi environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Et au chapitre 5 de son livre, il va dire « Et toi, Bethléem, petite ville de Judée, à côté de Jérusalem, de toi va sortir pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. » Vous voyez ce que dit Michée ? Qu'à Bethléem va naître celui dont l'origine se trouve dans l'éternité. Donc c'est vraiment pas un bébé comme les autres. Vraiment pas un bébé comme les autres. Vraiment pas un homme comme les autres. Alors d'après vous, quelle est la nature de celui qui existe de toute éternité ? Je la pose aux chrétiens cette question, parce que si vous êtes dans le monde et vous y êtes, vous allez rencontrer forcément des gens, sauf si vous fermez votre bouche, que vous ne parlez jamais de la foi. De votre foi et que vous ne témoignez pas, là vous serez tranquille, pas de souci. Maintenant votre carquois il ne sera pas bien rempli. Mais si vous êtes un chrétien qui témoigne, chrétien normal j'allais dire, vous allez rencontrer des gens qui vont remettre en question qui est Jésus. Et il faut avoir des arguments pour dire oui, d'accord, oui Jésus était un homme, oui, mais. Oui, d'accord, Jésus est un prophète, mais. Et apporter une réponse, apporter des solutions, apporter la chose qui semblait tellement importante à Jésus qu'il s'enquérait auprès de ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il pense de moi ? Et donc ton collègue de travail, qu'est-ce qu'il pense de moi ? Ah, il croit que tu es un grand philosophe ou le premier communiste ou un grand humaniste ou un prophète. Ou... Ouais, mais tu sais que s'il croit ça, il reste mort dans ses péchés. Donc je pose cette question aux chrétiens, mais je la pose aussi à ceux qui n'ont pas un engagement encore avec Jésus, qui ont une vague connaissance peut-être, voire pas du tout, de Jésus. D'après vous, quelle est la nature de celui qui existe de toute éternité? Parce que passer à côté d'un homme, j'allais dire normal, c'est pas grave, on passe tous les jours à côté d'hommes normaux, d'hommes ou de femmes normales, et puis ça ne change pas notre vie, quoi. C'est pas, voilà, ça ne va pas nous traumatiser. Passer à côté d'un prophète et l'ignorer, sous-entendu, c'est déjà peut-être plus important. Bon, ceci dit, c'est quoi un prophète, hein ? Mais passer à côté de Jésus et n'en faire aucun cas, est-ce que c'est pas un peu important quand même ? Quelle est la nature de celui qui existe de toute éternité ? C'est-à-dire avant même le Big Bang, la création du monde. Alors, il ne s'appelait pas Jésus. Il s'appelait Logos, la parole de Dieu, le Fils éternel. Une parenthèse pour les chrétiens. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu le jour où il est né dans la crèche à Bethléem. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu ce jour-là. Jésus est fils de Dieu éternellement, de toute éternité. Parce que Dieu est le Père de toute éternité. Comment peut-on appeler Dieu Père s'il n'avait pas de fils ? Et de toute éternité, Dieu est Père. Et de toute éternité, Jésus est Fils. Alors peut-être après ces quelques partages, on peut peut-être mieux répondre à la question. Qui dites-vous que je suis ? D'après vous, Jésus est-il un simple humain comme les autres ? Est-il un prophète parmi d'autres ? Oui, il est un homme. Oui, il est un prophète. Mais n'est-il que cela ? Ses origines remontent au temps éternel. On a vu que la différence par rapport aux autres prophètes aussi, c'est que ce sont les autres prophètes qui ont parlé de lui. Et si vous lisez les Écritures hébraïques, vous allez voir que tous les prophètes, quasiment, ont parlé ou ont évoqué la venue de celui qui les a précédés. Donc c'était un prophète à part. Dans les Écritures hébraïques, on a vu qu'il s'appelle l'ange de l'Éternel. L'apôtre Jean l'appelle la parole de Dieu. Ésaïe l'appelle le Père d'éternité. Et devant tout tant d'évidence, plus tout en vivant avec Jésus et en voyant ce qu'il faisait, l'apôtre Pierre, lui, va s'écrier dans l'évangile pour répondre à Jésus, à la question de Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, « Tu as raison. » Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Tu ne l'as pas compris intellectuellement parce que le message de ce matin, ce n'est pas intellectuellement qu'on le comprend. C'est une révélation. Jésus va dire à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père, c'est l'Esprit de mon Père. Alors, et toi, j'ai envie de dire, qui dis-tu qu'il est ? Ton sort éternel en dépend. Ton sort éternel dépend de la réponse que tu fais à cette question toute simple. Qui est Jésus ? Et aux chrétiens, j'ai envie de dire, est-ce que vous savez défendre qui est Jésus ? Ce message, j'ai voulu le faire, entre autres, d'abord parce que le sujet de la préexistence de Jésus me passionne, je trouve ça extraordinaire, de découvrir la dimension de ce petit bout, comme je disais tout à l'heure, ce petit bout d'homme juif là qui est né à Bethléem, de découvrir qui était vraiment à l'intérieur, c'est fascinant. Mais aussi parce que je suis un peu dans les réseaux sociaux, vous le savez, pour beaucoup vous êtes amis Facebook avec moi, et je trouve incroyable de voir combien ces outils, ces réseaux sociaux sont des lieux de confusion et de désinformation. Et de voir combien de chrétiens suivent, sont amis avec des gens qui ne sont pas clairs du tout. J'ai découvert récemment un prophète qui est dans. Un prophète chrétien, évangélique, qui est dans la région de Toulon, qui a une doctrine sur Jésus, mais c'est du modalisme, on appelle ça. C'est une doctrine du 1er siècle, totalement fausse. Et il publie des trucs et tout le monde dit « Ah ouais, j'aime, je like !» N'importe quoi. C'est un exemple. Les musulmans aussi sont de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux. C'est important de savoir en qui on croit. Parce qu'on peut être, si on est un chrétien pas très affermi dans les Écritures, on peut être déstabilisé par des questionnements. C'est légitime. Je vous encourage à étudier les choses. Je laisserai là, pendant quelques minutes, après le culte, deux livres que je vous recommande. Un vieux bouquin écrit par un Nîmois, Samuel Samuelian. Je ne suis pas sûr qu'il ait été réédité, mais je vous encourage à le lire sur la préexistence de Jésus. Et puis un bouquin plus gros qui ne parle pas que de ça, mais qui parle de la personne du Christ, la personne du Christ de Donald MacLeod. C'est un super bon bouquin, facile à comprendre, c'est de la théologie, mais que tout chrétien qui connaît un peu la Bible peut comprendre, c'est vraiment super. Et c'est des racines pour vos vies, et c'est des arguments pour être des bons apologètes, des bons défenseurs de la foi. Donc je voudrais vous encourager aussi à lire de bonnes choses et pas à vous nourrir que de ce qui circule. Parce que sur Internet, vous savez, il y a le meilleur, mais il y a beaucoup du pire aussi. Et quand on a du mal à discerner, et je crois que parmi nous, certains peuvent avoir du mal à discerner. Tellement de bêtises qui circulent, tellement de choses en apparence bien. Ouais, une révélation, ouais, je suis enthousiaste, ouais. Et la fin de tout ça, c'est le mur. Tu rentres dans le mur. Alors je voudrais vous inviter à vous lever. On va prier un instant. Et puis je voudrais interpeller les personnes parmi nous qui peut-être ne sont pas encore complètement au clair vis-à-vis de qui est Jésus. Qui est-il vraiment ? Ah oui, le fondateur d'une religion, c'est important de croire en lui. Moi, voilà, oui, je crois en Jésus. On est un pays chrétien, on a des valeurs quand même. Qui est Jésus pour toi ? Seigneur, je te prie pour que tu utilises les écritures qui ont été citées pour travailler nos vies, pour interpeller nos vies, pour nous engager sur un chemin qui est ton chemin, Jésus. Oui, Seigneur, Seigneur Jésus, tu étais un homme. Oui, tu as été un prophète de ton temps. Mais tu es plus que ça, tu es le Fils. Tu es celui qui est d'origine éternelle et qui est venu en chair, qui t'est incarné. Oui, tu as porté nos péchés sur la croix. Oui, tu es ressuscité des morts parce que, étant d'origine divine et éternelle, tu ne pouvais pas rester dans la tombe. La vie est plus forte que la mort. Et oui, Jésus, nous avons pour beaucoup choisi de te suivre et je te prie, Seigneur, de toucher le cœur de ceux qui, peut-être même s'ils viennent depuis longtemps, ne te connaissent pas encore vraiment, n'ont pas encore changé de vie, n'ont pas encore découvert qui tu es. Tu es Dieu le Fils, venu en chair sur la terre. Et Seigneur, devant toi, on ne peut que tomber à genoux et adorer. Et Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer, Jésus, parce que tu nous révèles le Père et tu nous conduis au Père. Amen.